Bon, et maintenant, tous ensemble.
Vous venez avec nous?
Allons.
Bien sûr, l'aventure continue.
Maintenant, je fonce, Alphonse.
Ah, c'est bien, alors allez, on y retourne.
Comme tous les mercredis en deuxième heure, nous vous emmenons sur les traces d'un voyageur d'hier célèbre. Aujourd'hui, c'est sur les pas d'Arthur Rimbaud que nous partons à 19 ans. Il a déjà écrit tous ces énigmatiques poèmes qui marqueront de leur empreinte l'histoire de la littérature. Et c'est précisément à 19 ans que ce tout jeune homme, déçu de voir le peu d'intérêt que suscitent ses textes à l'époque, décide de tourner définitivement le dos à la poésie. Suite à une altercation violente avec son ami Verlaine, il ne part pas, il fuit Londres, Bruxelles, Cologne, puis c'est l'Italie, la Hollande, Chypre, l'Égypte, Java, une frénésie de mouvements et de déplacements qui l'emmène jusqu'en Abyssinie, le nord de l'actuelle Éthiopie, où il s'installe un temps tout en continuant de rêver à des ailleurs toujours meilleurs. Que sait-on de ses voyages et de ses activités dans la corne de l'Afrique? Pour le savoir, nous avons invité deux fins connaisseurs de l'œuvre, de la vie de l'homme aux semelles de vent. Alain Tourneux, président de l'Association des Amis de Rimbaud et ancien conservateur du musée Rimbaud à Charleville-Mézières, et José Maribel, qui l'a précédé à la présidence de l'Association des Amis de Rimbaud et qui est le restaurateur de la maison Rimbaud à Aden, au Yémen, où il a vécu de nombreuses années. Tous deux vont donc nous emmener sur les pas de cette grande figure de la littérature jusque dans la corne de l'Afrique.
Je ne vous envoie pas ma photographie. J'évite avec soin tous les frais inutiles. Je suis d'ailleurs toujours mal habillé. On ne peut se vêtir ici que de cotonnades très légères. Les gens qui ont passé quelques années ici ne peuvent plus passer l'hiver en Europe. Ils crèveraient de suite par quelques fluxions de poitrine. Si je reviens, ce ne sera donc jamais qu'en été. Et je serai forcé de redescendre en hiver au moins vers la Méditerranée. En tout cas, ne comptez pas que mon humeur deviendrait moins vagabonde. Au contraire, si j'avais le moyen de voyager sans être forcé de séjourner pour travailler et gagner l'existence, on ne me verrait pas 2 mois à la même place. Le monde est très grand et plein de contrées magnifiques que l'existence de 1000 hommes ne suffirait pas à visiter.
Extrait d'une lettre d'Arthur Rimbaud, lue par le poète et romancier Michel Butor en 1982. Cette lettre a été envoyée par Rimbaud le 15 janvier 1885. Rimbaud a alors 30 ans. Ne comptez pas que mon humeur soit moins vagabonde, soit moins voyageuse. On sent là qu'il a pris le goût du voyage, que c'est assez définitif, qu'il n'envisage pas de rentrer. Il est engagé dans une sorte de mouvement perpétuel, José Maribel.
Le goût du voyage remontait à longtemps pour Arthur Rimbaud. Hein. C'était plutôt d'abord l'heure de la fuite. Hein, pendant qu'il était enfant, collégien, n'est-ce pas? Après avoir compris qu'il pouvait voir ailleurs et au-delà de la Meuse, et encouragé par Georges Isambard, n'est-ce pas? Et puis alors à partir de là, et bien évidemment à l'adolescence, tout était possible et il fallait s'éloigner le plus loin possible de Charleston, de The Mother, la mer, et puis revenir aussi. Donc ce goût du départ, de l'ailleurs et des voyages, ça remontait il y a longtemps, mais ensuite ça a été une sorte d'exil.
Ouais, Alain Tourneux, qu'est-ce qu'il fuit comme ça dès le plus jeune âge, cette envie de... Il fait des fugues, hein, adolescent déjà, il fugue, il fuit sa mère, il fuit le père absent, qu'est-ce qu'il fuit ?
C'est avant tout une immense curiosité. Il a envie de connaître le monde. Les magnifiques Ardennes lui semblent peut-être un petit peu étroites, mais c'est tout près de la frontière. Donc là, c'est l'appel vers l'extérieur. Quand on est à Charleville, il y a l'appel vers la forêt, mais il y a aussi l'appel vers la Belgique, les Pays-Bas. Et puis, il y a aussi les événements de l'époque. C'est tellement important avec 1870, la guerre. Et quand on entend le canon qui tonne à Sedan ou à Mézières, ça donne aussi envie de partir. Hein. Ouais. Si le frère de Rimbaud s'engage dans l'armée, lui, il n'a qu'une envie, c'est de partir. Et ouais. C'est là le véritable appel.
Alors, il lit aussi beaucoup. Hein. C'est aussi sa façon de s'évader. Qu'est-ce qu'il lit, Rimbaud? Qu'est-ce qu'on sait de ses lectures du jeune Rimbaud? Rimbaud, hein, qui est alors tout jeune.
Je voulais revenir, il y a la guerre franco-prussienne, dit Alain Tourneux, il y a la Commune, oui. qui secoue, bon, pas très longtemps, à Paris, et puis il y a l'appel, comme vous disiez, l'appel des autres, la curiosité à travers les livres et à travers les rencontres.
Alors, qu'est-ce qu'il lit alors à travers les livres?
Toutes sortes de choses, Alain.
Alors, Alain Tourneux.
Charleville, c'est pas tout à fait au bout du monde, malgré tout. Et les bibliothèques de l'époque, déjà, reçoivent les revues, les ouvrages les plus récents. Et puis, on reçoit aussi des gazettes. Et la famille Rimbaud, quand Arthur est jeune, c'est au-dessus d'une librairie. Et Arthur a établi des liens d'amitié avec le libraire qui lui fournit plein de choses à lire. Et il est très assidu à la bibliothèque. Et vraiment, on est surpris de se rendre compte à quel point il dévore la littérature de l'époque.
Alors, on lui prête un goût pour Victor Hugo, pour Baudelaire, pour Jules Verne aussi.
De toute façon, il connaît tout. Ouais. Il connaît tout, et dans les mois qui suivent la parution, c'est ça qui est absolument stupéfiant.
Ouais. Georges Isambard, son professeur, qui a à peine 5 ans de plus que lui, quand il est arrivé, n'est-ce pas, l'encourage et le guide d'une certaine manière. Et puis aussi, je crois savoir que Rimbaud n'hésite pas à vendre quelques couverts de la maison pour acheter quelques livres, ou il trouve des astuces pour enrichir sa curiosité.
Mais sa mère ne souhaite pas qu'il lise Victor Hugo. Elle écrira même à Isambard que c'est pas une bonne lecture pour son fils.
Ah oui, dis donc, oui. Autre époque. Elle était difficile. Difficile, hein. En tout cas, c'est ce qu'on dit de la mère de... Vous avez l'air de dodeliner, de ne pas être sûr à l'entour.
Oui,
de...
moi je pense qu'il faut réhabiliter Madame Rimbaud, celle que l'on appelle la mauveur, c'est l'expression d'Arthur lui-même. Ouais. Mais c'est une mère qui aime beaucoup ses enfants, et son fils Arthur, elle a perçu à quel point ce garçon avait des capacités.
Alors il écrit très tôt hein, ses premiers poèmes, et il écrit même ses œuvres majeures, alors que lui-même n'est pas encore majeur. Il a à peine 17 ans quand il écrit le bateau ivre, qui est peut-être son poème, en tout cas l'un de ceux les plus énigmatiques, qui fleure bon aussi l'aventure.
Oui, il est intéressé par une écriture et par une forme de poésie pour franchir le miroir. Il faut bien comprendre aussi dans cette situation, puisqu'on parle de la mère, le père est absent. Le père a été là quelques fois pour à chaque année pour que sa femme donne naissance à un frère et une sœur, hein, Frédéric d'abord et puis les deux Vitali, les deux petites sœurs, et Isabelle la dernière. Mais à travers cela, la niaque qu'il a dès sa jeunesse est liée aussi à cela, une mère assez rigide et un père absent.
Alors moi, je vous parlais du bateau ivre, Alain Tourneux. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce poème?
On y trouve à la fois des couleurs, des sensations, tout ce que Rimbaud sait percevoir, tout ce qu'il sait dire si facilement, et puis on y trouve un rythme. Et la poésie de Rimbaud, de façon générale, c'est un rythme, c'est celui du marcheur. Rimbaud dit « Je suis un piéton, rien de plus ». Et dans ces 25 strophes du bateau ivre, c'est scandé à la façon... Moi, j'imagine que Rimbaud n'était jamais derrière son écritoire. Il a écrit en marchant.
Alors, on va pas écouter les 25 strophes du bateau ivre, mais je vous propose quand même d'écouter les premières strophes de ce poème qui est peut-être l'un des plus énigmatiques, mais qui concentre tout le génie du poète.
Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Et des péninsules, des marées, n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels des victimes, d'inuit, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescent, dévorant les azurs verts où flottaison blême et ravie un noyer pensif parfois descend, ou, teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermente les rousseurs amères de l'amour.
Le bateau ivre, hein, écrit par Rimbaud en 1871, c'était lu par le comédien Denis Lavant. Alors, beaucoup ont donné hein, des explications, un récit d'aventure fantastique, une simple succession d'images ou une réflexion un peu métaphysique sur l'existence. Pour vous, Alain Tourneux, qu'est-ce qu'il raconte, le bateau ivre ?
Il est déjà, Arthur Rimbaud, imprégné de lecture, Jules Verne, le magasin pittoresque, une revue de l'époque, et toutes ces images se percutent. En fin de compte, le bateau ivre, c'est presque un manifeste. On n'est pas du tout étonné de savoir que quelques 2 ans, 3 ans plus tard, Rimbaud dira j'ai plus rien à dire, parce qu'en fin de compte, tout surgit déjà avec le bateau ivre et les poèmes de ces années 71, 70, 71. Et pour renouveler la poésie, il faudra ensuite qu'elle soit en prose avec La saison en enfer et les illuminations. Mais ces 25 strophes, rappelons-nous qu'il les a déclamés en montant sur la table ici à Paris, et que c'est vraiment pour lui un manifeste, parce que il tient à affirmer quelque chose et qu'il maîtrise parfaitement.
Ouais. José Maribel, il est persuadé, Rimbaud, du haut de ses... il a 17 ans quand il écrit Le bateau ivre, qu'il va révolutionner la poésie. Pour lui, c'est un peu le prophète. Hein. Il arrive un peu avec cette figure de messie quand il débarque à Paris.
C'est un engagement absolu. Ouais. Il débarque à Paris, invité par Verlaine, puisque Rimbaud lui a envoyé quelques poèmes, encouragé par Paul de Mény. Et là, Verlaine lui envoie un billet de train, d'ailleurs, parce que précédemment, il était venu sans billet de train. Et Rimbaud s'était retrouvé en prison à la prison de Mazas, à côté du boulevard Diderot, enfin, boulevard Diderot maintenant. Et donc, encouragé et invité par Verlaine, c'est une sorte de tempête, effectivement, qui se passe à Paris. Ouais. Car quand il clame le bateau ivre à 2 pas de Saint-Sulpice, eh bien, c'est un bouleversement absolu. Ouais. Verlaine est subjugué par ce jeune homme grand, avec de grandes mains, les yeux très clairs, ardennés, sans doute avec un accent, et il est subjugué. Donc à partir de là, c'est une véritable révolution et Verlaine est complètement dans la tourmente.
Ouais, rencontre lors d'un dîner dans la capitale entouré d'autres grands poètes en septembre 1871 avec Verlaine. Rimbaud logera chez Paul Verlaine et sa femme Mathilde. C'est le début d'une passion destructrice entre les deux hommes qui conduira Rimbaud à la fuite. Mais pour l'heure, Rimbaud a 17 ans et on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Poème d'Arthur Rimbaud mis en musique par Léo Ferré.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs. Aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vie et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons. Et toute blanche. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne et vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres. Un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robinsonne à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif sur vos lèvres, alors meurt les cavatines. Vous êtes amoureux, loués jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adorer un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, poème d'Arthur Rimbaud, mis en musique par Léo Ferré. C'est à 17 ans qu'Arthur Rimbaud rencontre Paul Verlaine. Verlaine va quitter un temps sa femme. Verlaine et Rimbaud vont partir pour la Belgique, puis pour Londres, puis de nouveau la Belgique. Qu'est-ce qu'on sait de cette escapade qui durera 2 ans, hein, je crois, entre les deux hommes, Alain Tourneux?
Eh bien, c'est une suite de, à la fois de ruptures, de nouvelles rencontres. C'est toujours très 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 mouvementé entre ces deux hommes, et il y a une admiration mutuelle. Rimbaud admire beaucoup le poète Verlaine, et Verlaine de son côté dira un petit peu plus tard que la poésie de Rimbaud, c'est une poésie de diamant, vraiment taillée, sculptée, cette vision qu'a Verlaine, eh bien ça finit sans doute par agacer aussi Rimbaud. Il est à la fois admiratif mais très très agacé par cette espèce de tutelle verlainienne. Ouais. Il aimerait bien s'en libérer.
Et alors, évidemment, ils passent leur temps à se disputer, à se réconcilier, à se déchirer. Exemple, avec suite à une énième dispute, lettre de Verlaine, donc les deux hommes à ce moment-là sont séparés, lettre de Verlaine à Rimbaud après une séparation suite à une dispute. La lettre est lue par Guillaume Gallienne.
Mon ami, je ne sais si tu seras encore à Londres quand ceci t'arrivera. Je tiens pourtant à te dire que tu dois, au fond, comprendre enfin qu'il me fallait absolument partir, que cette vie violente et toute de scènes sans motif que ta fantaisie ne pouvait m'aller foutre plus. Seulement, comme je t'aimais immensément, au niçois qui mal y pense, je tiens aussi à te confirmer que si d'ici à 3 jours je ne suis pas avec ma femme dans des conditions parfaites, je me brûle la gueule. Si, comme c'est trop probable, je dois faire cette dernière connerie, je la ferai du moins en brave con. Ma dernière pensée, mon ami, sera pour toi qui m'appelais du pier tantôt et que je n'ai pas voulu rejoindre parce qu'il fallait que je claquasse. Enfin, veux-tu que je t'embrasse en crevant? Ton pauvre Paul Verlaine.
Il y a quelque chose de très dur dans cet échange. On sent la passion, mais aussi la passion destructrice qu'il y a entre les deux hommes, José-Marie Bell.
Il y a effectivement une passion, il y a une attirance et un rejet total. Cette attirance existe parce qu'il y a une stimulation intellectuelle. Il y a un échange aussi à Londres, à Bruxelles, il y a des découvertes à faire. La ville de Londres est complètement excitante pour Rimbaud, pour eux tous les deux, parce qu'ils s'éloignent en même temps de la France, de Paris, qui a rejeté Arthur. Mais parallèlement, il y a toute cette folie. Il y a l'absinthe, il y a les drogues, il y a les nuits délirantes. Et puis, en même temps, il y a cette écriture qui est là. Donc, c'est comme un scotch qui colle à la chaussure.
Ouais, avec cette réponse de Rimbaud à cette lettre que l'on vient d'entendre de Verlaine, Rimbaud répond, c'est toujours lu par Guillaume Gallienne.
Cher ami, j'ai ta lettre datée en mer. Tu as tort cette fois, et très tort. D'abord, rien de positif dans ta lettre. Ta femme ne viendra pas, ou viendra dans 3 mois, 3 ans, que sais-je. Quand t'as claqué, je te connais. Tu vas donc, en attendant ta femme et ta mort, te démener, errer, ennuyer les gens. Quoi, toi, tu n'as pas encore reconnu que les colères étaient aussi fausses d'un côté que de l'autre? Mais c'est toi qui aurais les derniers torts, puisque même après que je t'ai rappelé, tu as persisté dans tes faux sentiments. Crois-tu que ta vie sera plus agréable avec d'autres que moi? Réfléchis-y. Ah, certes non. Avec moi seul, tu peux être libre. Et puisque je te jure d'être gentil à l'avenir, que je déplore toute ma part de tort, que j'ai enfin l'esprit net, que je t'aime bien, si tu ne veux pas revenir ou que je te rejoigne, tu fais un crime. Et tu t'en repentiras de longues années par la perte de toute liberté et des ennuis plus atroces peut-être que tout ce que tu as éprouvé. Après ça, ressonge à ce que tu étais avant de me connaître. Quant à moi, je ne rentre pas chez ma mère, je vais à Paris. Je tâcherai d'être parti lundi soir. Si tu veux m'adresser des lettres, envoie à L. Forain, 289 rue Saint-Jacques, pour Arthur Rimbaud. Il sera mon adresse. Certes, si ta femme revient, je ne te compromettrai pas en t'écrivant, je n'écrirai jamais. Le seul vrai mot, c'est « reviens ». Je veux être avec toi, je t'aime. Si tu écoutes cela, tu montreras du courage et un esprit sincère. Autrement, je te plains. Mais je t'aime, je t'embrasse et nous nous reverrons.
Dans cet échange, en tout cas dans cet échange, on a l'impression que Rimbaud est plus demandeur que Verlaine, hein, qui était plutôt en train de demander à ce qu'il le laisse tranquille. Lui, le rappelle, veut le revoir. Ils vont se revoir suite à cet échange de lettres. Ils vont se revoir en Belgique, Alain Tourneux, et ça va mal se passer.
C'est sans cesse comme cela. Ils se donnent parfois des rendez-vous manqués, ça dure plus ou moins manqué, ça dure jamais très longtemps. Et puis... En 1873, tout se compliquera à Bruxelles avec le fameux épisode de la rupture, du coup de revolver. Rimbaud sera à l'hôpital, Verlaine sera arrêté.
Donc c'est Verlaine qui achète un revolver. Il dira à la police plus tard que c'était pour se suicider. Finalement, il tire sur Rimbaud. Rimbaud est blessé au poignet. Le tout Paris le sait. Verlaine fera de la prison pour ça. À ce moment-là, Rimbaud est dans quel état d'esprit ?
Déjà sur le fond, Verlaine était dans un état assez alcoolisé, hein, et ça explique une part des choses. Et puis l'état d'esprit de Rimbaud, c'était un moment où il fallait qu'il se passe quelque chose. Et Rimbaud en profitera d'une certaine façon pour que la rupture soit consommée.
Ouais. Et à ce moment-là, comment est perçu le travail littéraire de Rimbaud dans les cercles littéraires de Paris ? José Maribel.
Là, pas vraiment, pas trop, parce que Rimbaud, à partir de cette affaire, quand il a clamé le bateau ivre, il a été rejeté par la plupart, à part Germain Nouveau, à part quelques amis, quelques proches. Mais cette vie insupportable de ce couple qui se retrouve et qui se rejette jusqu'à l'extrême était quelque chose qui tournait essentiellement autour de la famille de Verlaine, autour de la mère Rimbe. Donc il en est ainsi. Mais concernant le coup du 10 juillet, le coup de revolver, ouais. La gravité est telle encore parce que Verlaine arrive et il est là. Rimbaud le rejette, ça dure 2 ans. Verlaine est pendant 2 ans en prison en Belgique. Et les choses changent. Il se trouve que ça fonctionne comme un aimant, effectivement, comme si Rimbaud attendait ce coup fatal.
Ouais. On a donc cette rupture avec son ami, amant Verlaine. On a sur la scène littéraire, lui qui se voyait en prophète, qui pensait révolutionner, qui se croyait attendu. Ça ne prend pas. Il sent que dans les milieux littéraires, il n'est pas apprécié. C'est pour ces deux raisons qu'il décide de partir, de prendre la fuite.
Oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est ponctuation là, en juillet 1873, a fait que Rimbaud commençait à écrire, n'est-ce pas, quelques vers en prose qui se sont retrouvés dans cette saison en enfer. Et suite à cette histoire de Bruxelles, il termine avec une rage très singulière cette saison en enfer dans son à Roche, dans la petite maison familiale de sa mère.
Et la saison en enfer, ce sera son dernier recueil de poèmes, Alain Tourneux ?
Eh bien, ça dépend de la datation des illuminations, parce que on hésite toujours à dater les illuminations 1874-76, et certains les ont placées avant la saison en enfer, mais enfin, généralement, c'est la saison, puis les illuminations. Mais le véritable déclencheur pour cette saison en enfer, c'est véritablement cette rupture et ce grand, ce combat passionnel avec Verlaine, c'est ce qui entraîne cette saison en enfer.
Extrait d'une saison en enfer.
On a abusé de mon innocence. C'est mon baptême et ma faiblesse dont je suis esclave. Tais-toi, mais tais-toi. C'est la honte et le reproche à côté de moi. Allons, la marche, le désert, le fardeau, les coups, le malheur, l'ennui, la colère, l'enfer, la science et les délices de mes peurs et des sens dispersés. Rimbaud.
Extrait donc du recueil d'une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. Beaucoup ont vu dans ce recueil des textes prémonitoires sur ce qu'il allait vivre ensuite, comme si il était en train d'annoncer ce marcheur qui va loin. Il était en train d'annoncer tout son périple qu'il allait faire par la suite en Abyssinie. Alain Tourneux.
Il a même envisagé d'aller vivre sous les climats les plus chauds. Il a véritablement annoncé, c'est une annonce de ce qui se passerait plus tard. Et sa vie est écrite d'une certaine façon, oui, au travers de la saison en enfer. C'est tout à fait étonnant, cette façon d'avoir une vision sur la vie qui sera la sienne. S'est-il mis lui-même dans ces conditions pour la vivre ainsi, sans doute?
Autrement dit, au moment où il décide, à 19 ans, il est encore tout jeune, d'arrêter la poésie, c'est pour vivre ce qu'il a écrit dans ses poèmes?
C'est pour vivre tout aussi intensément, mais c'est cette dimension de vivre à nouveau, de vivre en poète, mais sans écrire. C'est un investissement total dans une autre démarche, mais qui est tout aussi engagée d'une certaine façon.
Allez, suite de notre voyage sur les traces d'Arthur Rimbaud en Abyssinie avec José Maribel et Alain Tourneux, Le Temps d'un bivouac sur France Inter. Jarabi tala yoro jana ale mason segima nderini nderini ngabe disa ne jarabi ma fe ganyalo nyala nderini nderini ngabe disa ne kanu I want to know. Ba fe ganyalo nyela nterini.
C'était Mterini, Fatoumata, Diawara sur France Inter, le temps d'un bivouac sur les traces d'Arthur Rimbaud.
Harare, 15 février 1881. Ma chère maman, je ne compte pas rester longtemps ici et je saurai bientôt quand je partirai. Je n'ai pas trouvé ce que je présumais et je vis d'une façon fort ennuyeuse et sans profit. Dès que j'aurai 1500 ou 2000 francs, je partirai. J'en serai bien aise. Écris-moi des nouvelles des travaux de Panama. Aussitôt ouvert, j'irai. Je serais même heureux de partir d'ici dès à présent. Le climat est très humide en été, c'est malsain. Je m'y déplais au possible. C'est beaucoup trop froid pour moi. Demandez si vous avez de l'argent de reste chez Lacroix, le Dictionary of Engineering Military and Civil, prix 15 francs. Cherchez dans les papiers arabes de papa un cahier intitulé « Plaisanterie, jeux de mots, etc. » en arabe. Et il doit y avoir aussi une collection de dialogues et de chansons ou je ne sais quoi, utiles à ceux qui apprennent la langue. Je te dis à bientôt, dans l'espoir d'un temps meilleur et d'un travail moins bête. Car si tu présupposes que je vis en prince, moi je suis sûr que je vis d'une façon fort bête et fort embêtante. Deviens tout ce chien.
Lettre de Rimbaud à sa mère, datée du 15 février 1881. Il est arrivé dans la corne de l'Afrique. Alors, il y a toujours ce paradoxe. Alors déjà, il est en lien avec sa mère. Il lui écrit tout au long de ses voyages. Il perd jamais le fil avec sa mère. Et il y a ce paradoxe, c'est qu'il a l'air d'avoir le goût du voyage, de vouloir partir. Et il est sans arrêt en train de se plaindre des conditions dans lesquelles il voyage, Alain Tourneux.
Il se plaint sans cesse. Il aimerait... Il dit qu'il voudrait gagner plus d'argent et pourtant il en gagne. Et il a cette douleur permanente, un mal-être, ouais. sans aucun doute. Mais ceci dit, il est très bien accepté par les personnes avec qui il partage cette vie, que ce soit à Aden ou à Harare.
Et cette envie d'aller toujours ailleurs, d'envisager toujours d'aller plus loin, là où ce sera meilleur. C'est un éternel insatisfait, cet Arthur Rimbaud.
Il est toujours en partance, toujours sur le départ, il le dit lui-même, sur le départ.
Et on entend aussi dans cette lettre à sa mère une liste d'ouvrages très concrètes. Alors là aussi, ça contraste avec les précédents écrits que nous avions de Rimbaud, ces textes énigmatiques. Là, on est pragmatique, il donne les situations, il fait des listes de livres qu'on peut lui envoyer. Et ça nous montre aussi la curiosité tous azimuts d'Arthur Rimbaud quand il est là-bas.
S'il avait poursuivi ses études, si la guerre de 70 n'avait pas tout interrompu, il aurait peut-être été ingénieur, Arthur Rimbaud. Il l'avait dit, j'aimerais être ingénieur. Et quand il est en Afrique, il se fait effectivement envoyer des ouvrages très techniques. Ouais. Le manuel du charpentier, le manuel du géomètre. Et c'est sans doute parce qu'il a envie de faire connaître autour de lui ces techniques. Il a envie que les personnes qu'il côtoie connaissent des techniques pour avoir des jours meilleurs.
Alors José Maribel, c'est des passe-temps, hein, c'est cette lecture qu'il fait, ces ouvrages techniques, scientifiques qu'il se fait envoyer. De quoi il vit sur place? Il se fait embaucher par des commerçants?
Oui, mais c'est pas tout à fait un passe-temps. Ouais. C'est que il est dans la contrariété en permanence. C'est-à-dire, il fuit, il quitte. Il se retrouve à Aden en 1880, ouais. Alors que quelques années avant, en 1876, ouais. Il était passé en bateau, ouais. Puisqu'il s'est engagé dans l'armée hollandaise, ouais. En tant que mercenaire.
Donc Aden, c'est l'actuel Yémen, pour constituer un peu les choses.
C'est en face de Djibouti et de la Somalie. Alors, il se trouve dans cette situation, il faut gagner son pain, hein, ouais. cette doctrine, cette phrase qui résonne en lui, et parallèlement, effectivement, il commande des livres, il commande un appareil photographique,
oui,
à un moment.
À sa mère, mais alors, ça a l'air de rien, mais à l'époque, commander un appareil photo à sa mère, des gens se sont amusés à voir un peu combien ça correspondait en euros actuels. 9 500 euros, il lui fait une commande avec tout le matériel pour pouvoir développer ses photos, et sa mère s'exécute.
Oui, elle s'exécute, c'est exorbitant, oui. Tout cela, parce que commander, envoyer du courrier déjà jusqu'à Charleville ou jusqu'à Roche, à partir d'Aden ou d'Arar, c'est quand même une affaire. Commander les livres pour qu'elle le trouve, le moyen d'acheter ce matériel ou ce matériel photographique à Paris ou à Lyon, et ensuite les acheminer à Marseille pour que ça passe par les messageries maritimes et que ça arrive à dos de dromadaire, par une température très élevée, genre 50 degrés, 60 degrés Celsius, c'est terrible. Les livres qu'il commande, ouais, ce sont des livres essentiellement techniques. Alors il dit qu'effectivement, il peut les lire parce que ça peut amuser sa solitude à un moment. Mais le but, c'est de travailler, c'est de trouver le moyen de gagner quelque argent, c'est de s'essayer, comme il s'est essayé aussi en poésie.
Oui. Mais on a l'impression que c'est un touche-à-tout. C'est un touche-à-tout. Alors, il essaye avec plus ou moins de bonheur, mais il ne persévère jamais. Alors, il essaye aussi il tente de se faire embaucher par la société de géographie, hein, pour faire le géographe. Il essaye le photographe, mais finalement, après s'être fait envoyer tout ça, il ne fait que 5 ou 6 photos. 9 500 euros qu'il s'est fait, de matériel qu'il s'est fait envoyer pour faire 5 ou 6 photos.
Produits sont fichus. Oui. Quand ils arrivent à Arar et dans la région, les bains sont fichus. Donc il lâche, oui. Il se lance dans quelque chose et il lâche et il prend encore autre chose.
Alain Tourneux, cette idée de touche à tout qui ne persévère jamais, elle vous convient ou c'est une mauvaise idée que je me fais ?
Non, je pense que il a testé, il a essayé, il passe à autre chose, ça, tout va très vite, il est toujours, oui, très pressé.
Aussi bien dans ses activités, il s'amourache aussi d'une abyssine, mais ça ne dure pas.
Ça durera 6 mois ou un peu plus, enfin pas beaucoup.
Ouais. Mais... Et il va s'essayer aussi, alors on en parle souvent un peu comme une tâche dans le tableau, mais il va essayer aussi au trafic d'armes.
Alors oui, ça, il faut bien comprendre le contexte. C'est que dans cette région du monde, on se partage la dernière part du gâteau grâce aussi à l'ouverture du canal de Suez. Ça va très vite. Il y a les Turcs, les Égyptiens dans le secteur, bien entendu. Il y a les Anglais qui sont arrivés à Aden en 1839. Ensuite, évidemment, les Français qui se retrouvent à Djibouti avec une sorte de confetti. Les Italiens débarquent aussi. On leur laisse aussi un secteur. Et puis, cette abyssinie séduisante, excitante, où il y a ces hauts plateaux, il y a Ménélik qui dirige cette vaste région attirante.
Et c'est pour Ménélik qu'il va essayer de faire les trafiquants d'armes et que ça va pas marcher, il va se faire un peu avoir.
Oui, il se fait complètement avoir, parce que là, après avoir s'essayé à la photographie et puis à différentes choses, comme de vendre du café, d'être dans le triage de café, il s'est dit que c'était sans doute plus juteux, et c'est extrêmement juteux, 40 fois plus, de commander des armes ou des cartouches et puis les vendre, parce que les conflits avec tous ces protagonistes commençaient à se développer, avec l'Italie notamment.
Mais alors pourquoi ça marche pas finalement ?
Ça marche pas parce que ça traîne, parce qu'il faut des autorisations. Aujourd'hui, à cette époque-là, il fallait des autorisations spécifiques pour importer des armes et des cartouches, et qu'il y a eu un blocage radical fait par les Anglais et les Français. Il a écrit à Félix Faure, ouais, tout de même, pour lui demander l'autorisation d'importer ces armes. Ça a traîné pendant 1 an et demi, cette histoire à Tadjoura.
Et au final, l'argent qu'il aura investi dans cette entreprise de vente de fusils, il va récupérer juste l'argent. Donc il aura fait tous ses efforts, il sera allé partout avec sa caravane, avec ses fusils, et il n'aura pas gagné un sou avec cette histoire.
Il en aura gagné avec d'autres.
Oui, il a quand même réussi. Beaucoup. Il y a quand même eu des affaires qui ont marché. En tout cas, il ne semble jamais vouloir se poser. Au fond, il est assez contradictoire ou de mauvaise foi quand il écrit cette lettre au sujet de sa sœur Isabelle. En 1883, elle est lue par Michel Butor.
Isabelle a bien tort de ne pas se marier si quelqu'un de sérieux et d'instruit se présente, quelqu'un avec un avenir. La vie est comme cela et la solitude est une mauvaise chose ici-bas. Pour moi, je regrette de ne pas être marié et avoir une famille. Mais à présent, je suis condamné à errer attaché à une entreprise lointaine, et tous les jours je perds le goût pour le climat et les manières de vivre, et même la langue de l'Europe. Hélas, à quoi servent ces allées et venues, et ces fatigues et ces aventures chez des races étranges, et ces langues dont on se remplit la mémoire, et ces peines sans nom, si je ne dois pas un jour, après quelques années, pouvoir me reposer dans un endroit qui me plaise à peu près, et trouver une famille, et avoir au moins un fils que je passe le reste de ma vie à élever à mon idée, à orner et à armer de l'instruction la plus complète qu'on puisse atteindre à cette époque, et que je vois devenir un ingénieur renommé, un homme puissant et riche par la science.
Alain Tourneux, alors ça n'a rien à voir avec ce qu'il vit. Là, il est en train de se projeter, de se poser quelque part, d'avoir un fils qu'il élèverait de façon tout à fait bourgeoise. C'est pas du tout ce qu'il vit, c'est pas du tout ce qu'il souhaite au fond de lui, apparemment.
À un moment, il a même souhaité pouvoir s'acheter une terre, une ferme, revenir dans les Ardennes. Il regrette les cavernes ardennaises. On a parfois de la peine à suivre ce raisonnement parce qu'il avait rejeté tout ça, effectivement. Mais c'est la personnalité d'Arthur Rimbaud. Et puis, quand on connaît cette région du Harar, permettez-moi de rappeler cela, on est aussi à la saison des pluies, dans des paysages verdoyants. Et il peut à la fois rejeter l'Europe et puis aspirer à une vie de pâturage, d'une certaine façon, dans cette nature florissante.
Avec ses nombreux essais, erreurs, ses tentatives parfois avortées, est-ce qu'il finit par avoir une situation à Harar, par se poser, par être plus... Au début, il vagabonde. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu plus confortable pour lui?
Dans l'ensemble, oui, il arrive à avoir une situation. D'abord, il est employé avec des affreux pignoufs, comme il dit. Il les rejette, il arrête ce contrat, il se lance dans d'autres affaires, avec donc la battue, l'histoire des fusils en tant que trafiquant d'armes. Après, il revient à un autre type de contrat, et après, finalement, d'une certaine manière, il se met à son compte, pour ainsi dire. Mais tout cela est entrecoupé tout de même par deux tentatives. On en a parlé tout à l'heure avec la Société de Géographie. Il rédige, disons, il conçoit deux rapports avec une idée même d'écriture, presque écrire un livre sur l'histoire de la région. Donc, c'est en même temps, il est partagé entre le travail, gagner son argent, garder de l'argent, travailler, et en même temps, toute une activité intellectuelle et relationnelle, tout de même. Et il en arrive tout de même à être usé. Quand il dit que on s'use en une année, on prend 4 ans et on prend les cheveux blancs aussitôt.
Ouais. Oui, on va voir qu'il s'use plus vite que de raison. Suite et fin du parcours d'Arthur Rimbaud dans un instant, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Je suis la fille sans joie d'un demain sans fête, une larme sans poids. Je suis piscine de part, une piscine d'hôtel. Sur mes côtes d'azur s'échouent les âmes faibles. Ma salive sans le chlore, mon lit décontamine. On s'y pousse, on s'y mêle, on y commet des crimes. Je suis piscine de sang, une piscine qui sait se taire et faire semblant que ses clients le paient. Oh, 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 oh.
Oh, C'était Camille, Piscine sur France Inter. La programmation musicale est signée Djoubaka.
Je est un autre. J'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archet, la symphonie fait son remuement dans les profondeurs ou vient d'un bond sur la scène. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences.
Extrait du poème « Je est un autre » lu par Guillaume Gallienne. « Je est un autre », c'est l'un de ses poèmes connus à Arthur Rimbaud. Avec cette double vie d'abord de poète, puis complètement éloigné de la littérature, il y a bien cette dualité chez Rimbaud, Alain Tourneux.
Et pourtant, c'est une seule vie, c'est bien le même. Ouais. Mais il a réussi, il y est parvenu, le « je » est devenu un autre. Ouais. Mais il y a cette unicité, malgré tout. Quand on évoque la dualité, il faut pas opposer ces deux périodes, ces deux vies d'Arthur Rimbaud. Elles sont absolument complémentaires et il a eu cette vision prémonitoire que l'on évoquait et tout s'est déroulé un petit peu comme il l'avait. Il aurait même dû se rendre compte qu'il allait mourir jeune, en fin de compte.
José Maribel, il aura vent à la fin, lors de son voyage, alors qu'il est loin de l'ampleur que prend quand même. Parce que à Paris, ça se vend, les poèmes et les recueils d'Arthur Rimbaud. Il commence à avoir une certaine aura.
Oui, il se trouve que Verlaine, déjà en 1886, a publié des poèmes d'Arthur Rimbaud et qui ont été effectivement très cotés, ouais. Peut-on dire. On a à partir de là, Rimbaud ne le savait pas. Il se trouve que Paul Bourde, un de ses amis de Charleville, des Ardennes, journaliste, est de passage dans la région. Il va rendre visite il rencontre Alfred Bardet, il essaie de rendre visite à Rimbaud. Il lui dit, mais au fait, votre employé, c'est Arthur Rimbaud, ce grand poète connu et vénéré en Europe, en France, en Europe. Et c'est là que Bardet vient voir Arthur Rimbaud ensuite et lui dit, mais il paraît que vous étiez poète, vous êtes poète.
Ouais. Rimbaud, son employeur ne le sait pas. Son
il
employeur
ne le sait même pas.
Mais Rimbaud a triché.
Des rinsures, ce sont que des rinsures.
C'est ce qu'il dit. Oui. Il s'en moque vraiment, Alain Tourneux.
Oui, mais en plus, Arthur Rimbaud avait triché. Il avait dit qu'il était non pas né à Charleville. Il avait usurpé, en fin de compte, l'identité de son père en disant qu'il était né à Dole, dans le Jura, parce qu'il voulait absolument dissimuler sa vie antérieure auprès de Bardet et de ses employeurs.
Il y a un rattachement avec son père dans cette histoire.
Oui, il y a une espèce de confusion qu'il entretient.
Ouais. Donc il n'a pas du tout envie de se glorifier de ça. Le Rimbaud meurt jeune, comme tout ce qu'il a fait. Il a été poète jeune, il meurt jeune, à 37 ans. Il meurt de quoi ?
Très certainement d'une gangrène, d'un cancer osseux, comme sa petite sœur Vitalie, à l'âge de 17 ans, il y a longtemps. Et là, il meurt ainsi, mais il ne rencontre personne quand il est en France, quand à son retour.
Ouais, il rentre à Marseille, et il se sait malade. Il ne rencontre personne, sauf sa mère, qui est à son chevet à Marseille.
Isabelle.
Faut pas me laisser dans cet endroit, maman. Écoute-moi, il y a des chiens qui aboient toute la nuit sous les platanes, là, dans la cour. Il faut que tu t'occupes de me faire transporter dans un autre hôpital, maman. Tu t'en occuperas, n'est-ce pas ?
Oui.
Je veux retourner à Harare.
Tu ne peux plus bouger. Tu ne crois pas que tu as assez bougé ?
Moi ? Oui, c'est vrai, j'ai trop bougé. Toute mon enfance, j'ai bougé. Tu t'en souviens ? Pour chercher quoi ?
Qu'est-ce que tu racontes ?
Toi, peut-être.
Extrait du film Arthur Rimbaud, l'homme aux semelles de vent. Je veux retourner à Harare. Rimbaud rêvait de repartir. Il ne repartira pas. Il meurt le 10 novembre 1891 à Marseille.
Qu'est-ce qu'il reste de son œuvre, José Maribel ?
Il reste tant de choses. Le début de mouvement surréaliste, on l'appelait le décadent, et tant de personnes, d'artistes, de musiciens, de chanteurs revendiquent le patrimoine d'Arthur Rimbaud.
Il reste 250 pages imprimées aujourd'hui qui correspondent, qui sont traduites en 37 ou 40 langues. Et c'est cette poésie de diamant qu'évoquait Paul Verlaine.
Merci à vous Alain Tourneux. Je rappelle que le musée Rimbaud dont vous avez été conservateur se visite à Charleville-Mézières. Et merci José Maribel. Je signale qu'à partir du 13 septembre prochain se tiendra à l'espace Reine de Saba à Paris l'exposition Yémen éternel avec une partie consacrée aux explorateurs dont Arthur Rimbaud. Merci à tous les deux.
Je te remercie de m'avoir fait connaître la poésie de Rimbaud. Il m'arrache les pieds de la terre. Est-ce que j'arriverai un jour à m'enfuir comme lui ?
Demain à 16h, notre bivouac cosmique nous emmènera à la découverte des trous noirs. Et à 17h, nous irons naviguer dans la tempête du côté des écueils féroces de la pointe Finistère à bord d'un remorqueur de sauvetage en haute mer. À demain donc pour de nouvelles aventures.